Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un panorama assez riche d'actualités marquantes, tirées des dépêches d'Africa Press du 14 mai.
Bonjour. Oui, un programme chargé.
Carrément. Au menu, l'ouverture très engagée du Festival de Cannes. On aura aussi des développements politiques au Mali, au Libéria. Un point sur la sécurité, bon, toujours un peu précaire en Libye. Et puis, deux choses assez fortes. Une innovation militaire au Mali et un retour culturel majeur au Bénin.
Tout à fait.
On va donc essayer d'explorer un peu tout ça. L'art face aux crises, les transitions politiques, toujours complexes.
Oui, les défis sécuritaires qui persistent.
Voilà. L'innovation locale aussi comme outil de souveraineté. Et puis, cette force de la réappropriation culturelle.
C'est ça, l'idée c'est de décrypter un peu ces différents événements, voir les enjeux derrière, leur portée, en reliant un peu les points à partir des sources qu'on a.
D'accord.
Pour essayer d'avoir une vision un peu nuancée de ce qui se passe sur le continent et même un peu au-delà.
Parfait. Alors on commence par Cannes, la croisette. L'ouverture le 13 mai a vraiment donné le ton, très engagé.
Ah oui, clairement.
Juliette Binoche, sa robe blanche, ses mots très forts sur les démons de nos barbaries, guerre, misère, climat. Elle a parlé de tout ça.
Oui, et cet hommage aussi à Fatima Hassouna.
Oui, l'hommage à la photoreporter palestinienne tuée en avril, avec la projection du documentaire. Ça marque les esprits.
Ça donne une tonalité particulière dès le départ, c'est sûr.
Et puis il y a eu Robert De Niro, Palme d'honneur, et des critiques assez vives, d'après ce qu'on lit, sur la politique de Trump vis-à-vis de la démographie. On a l'impression que Cannes, cette année, veut vraiment être plus qu'une simple vitrine de cinéma, non?
Ben oui, c'est exactement ça. C'est frappant de voir comment Cannes se positionne là comme une sorte d'arène où la culture s'engage. C'est plus juste la fête du cinéma.
D'accord.
Il y a cet appel à plus de 400 personnalités de Gelosser, Almodovar, qui utilisent des mots très très forts. Ils parlent de génocide en cours à Gaza. Bon, il faut préciser, c'est leur terme à eux, hein.
Oui, on rapporte ce qui est dit, bien sûr.
Voilà, ça reflète leur indignation. Et puis l'intervention de Laurent Lafitte, le maître de cérémonie, il a interpellé les artistes directement sur leur rôle, leur responsabilité.
Ah oui?
Oui, les poussant à parler de sujets sensibles. Climat, équité, droits des minorités. Des sujets qui pourraient être, disons, menacés de censure ailleurs. Et la projection du film de l'Ukrainien Loznitsa, ça renforce encore cette idée. Le festival comme plateforme de dialogue entre l'art et les secousses du monde actuel.
C'est intéressant ce lien art-politique. On reste en Afrique de l'Ouest, mais on change de registre. Le Mali. Et une nouvelle assez surprenante.
Oui.
Le pays aurait fabriqué son tout premier pistolet automatique, conçu entièrement avec de l'acier local. C'est Mohamed Sissoko, des ateliers militaires de Markala, qui l'annonce. C'est plus qu'une simple info technique, j'imagine.
Ah oui, c'est très significatif. Il faut vraiment voir ça dans le contexte. La lutte du Mali contre le terrorisme, et puis cette volonté de moins dépendre de l'étranger pour l'armement.
D'accord, une quête d'autonomie.
Voilà, de souveraineté, de sécurité. C'est un symbole fort, mais c'est aussi une étape concrète, même si l'échelle est peut-être encore modeste.
Oui, bien sûr.
Et ce n'est pas tout. Les sources parlent aussi de l'adaptation de véhicules Toyota. Ils les blindent, ajoutent des boucliers anti-mines, des mitrailleuses.
Ah oui, une sorte de système D militaire, mais organisé.
C'est un peu ça. C'est une réponse très pragmatique à ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Ce type de conflit où les forces sont pas égales, les tactiques différentes.
D'accord.
Et potentiellement, ça pourrait stimuler une petite industrie locale, créer des emplois. Et qui sait, peut-être inspirer d'autres pays de la région.
Toujours au Mali, volet politique cette fois. Le Conseil national de transition a adopté une loi, la numéro 2025-005, promulguée par le général Goïta.
Oui.
Et cette loi, elle abroge carrément la charte des partis politiques de 2005 et le statut de l'opposition de 2015. C'est énorme, après presque 20 ans, hein.
Oui, c'est un changement majeur.
Quelle est la justification donnée par les autorités de transition?
Alors, officiellement, l'argument, c'est de créer un cadre politique qui serait plus transparent, plus inclusif, pour accompagner ce qu'ils appellent la refondation institutionnelle.
La refondation, c'est-à-dire réécrire un peu les règles du jeu politique?
En gros, oui. Préparer un avenir qu'ils espèrent plus stable. Mais bon.
Mais?
Mais, évidemment, ça soulève pas mal de questions, voire d'inquiétudes chez certains observateurs. La crainte principale, c'est une concentration du pouvoir, en fait.
Aux mains de la junte?
Voilà. Et une réduction de l'espace démocratique, surtout pour l'opposition. L'article 2 de la loi dit que de nouvelles règles pour les partis viendront, mais pour l'instant, c'est flou.
Donc on attend de voir.
On attend de voir. Le défi, c'est de savoir si le nouveau système permettra une vraie démocratie pluraliste, surtout dans ce contexte post-coup d'État et avec l'insécurité qui continue. C'est une page qui se tourne, mais on ne sait pas trop ce qu'il y aura sur la suivante, quoi.
Et cette question de stabilité, de règles politiques, ça résonne aussi différemment au Libéria. Du nouveau à la Chambre des représentants. Richard Kuhn a été élu président le 13 mai.
Oui, il remplace Fonati Kofa, qui a démissionné.
C'est ça. Le score, 43 voix contre 26 pour Musability. Ça semble mettre fin à un blocage qui durait, non?
Oui, ça débloque une situation qui était devenue très tendue. On se souvient de la tentative ratée de Kuhn en novembre, Kofa qui voulait pas partir au début, les boycotts.
Et même cet incendie au Parlement, c'est vrai.
Oui. Donc cette élection de Kuhn, qui est jugée légale et transparente, ça ramène une sorte de normalité institutionnelle, du moins en apparence.
Pourquoi en apparence?
Ben, parce que la partie est loin d'être simple pour lui. D'abord, il n'a pas de majorité absolue. L'Assemblée est très divisée.
D'accord.
Et puis, il y a sa proximité, perçue en tout cas avec le président Joseph Bocahi. Ça, ça inquiète l'opposition, avec des figures comme Yeke Koluba.
Ils craignent qu'il soit juste un relais du président.
C'est ça la crainte, qu'il ne soit pas un vrai contre-pouvoir.
Donc, la grande question, c'est, aura-t-il la marge de manœuvre et la volonté d'agir de façon indépendante?
Exactement. C'est tout l'enjeu. L'analyste Abdoulaye Kiatamba le souligne bien, Koné va devoir prouver cette indépendance. Surtout face aux défis qui sont énormes. Gestion de l'argent public, réforme de l'éducation, de la santé.
Sans parler des polémiques sur les salaires de certains officiels.
Voilà. Donc sera-t-il capable de dire non au gouvernement si nécessaire? On verra très vite, je pense.
Pendant que l'Afrique de l'Ouest gère ses propres défis, on se tourne vers la Libye, une instabilité d'une autre nature là.
Le ministère de l'Intérieur du gouvernement de Tripoli assure que la situation sécuritaire se stabilise dans la capitale. Ils appellent même les gens à retourner travailler, mais est-ce si simple?
Non, c'est clairement pas si simple. Il faut vraiment lire cette annonce avec beaucoup, beaucoup de pincettes.
Ah bon? Oui, parce qu'elle arrive juste après des affrontements très violents lundi soir entre des groupes armés dans le sud de Tripoli. On parle d'au moins 6 morts selon des médecins sur place.
Ah oui, quand même.
Et pire encore, il y a eu l'assassinat d'un haut responsable militaire, Abdel Ghani Al-Morlia, lié à la brigade 444, une milice assez puissante, tué lors d'un raid.
D'accord, donc le calme annoncé est très relatif.
Très relatif, oui. Ça montre bien l'instabilité chronique qui mine la Libye depuis 2011. On a toujours ces milices qui font leur loi, ces conflits internes et surtout cette division politique majeure entre le gouvernement de Tripoli et celui de Benghazi.
Les deux gouvernements rivaux.
Exactement. Donc, malgré les communiqués qui se veulent rassurants, la situation reste hyper volatile. L'ambassade russe dit qu'il n'y a pas eu d'incident majeur pour ses ressortissants. Ok, mais la fragilité est là.
Et le vrai défi demeure.
Il demeure, désarmer les milices, unifier le pays, tout ça reste entier.
Sous l'œil, bien sûr, des acteurs extérieurs comme la Russie et la Turquie.
Bon, on termine ce tour d'horizon sur une note un peu plus positive peut-être. Direction le Bénin, un événement culturel important, le retour du tabouret cataclé à Cotonou le 13 mai.
Ah oui, une très belle nouvelle.
Racontez-nous un peu l'histoire de cet objet.
C'est une histoire assez incroyable. Ce tabouret, le cataclé, c'est un siège rituel à 3 pieds, très important, utilisé pour les couronnements des rois du Danksomé, un royaume puissant d'Afrique de l'Ouest.
D'accord.
Et il a été pris par les troupes coloniales françaises en 1892. Après un long périple, il s'est retrouvé au Musée national de Finlande en 1929.
En Finlande?
Non.
C'est étonnant. Oui. Et après des années de discussions, de négociations, la Finlande vient de le restituer au Bénin.
On imagine l'émotion là-bas. La portée symbolique doit être énorme. C'est bien plus qu'un objet qui revient.
Absolument. C'est une victoire immense pour le Bénin dans cette longue lutte pour récupérer son patrimoine qui a été pillé. C'est un acte de réparation historique, un symbole très fort d'unité, de stabilité retrouvée. Ça renforce l'identité culturelle du pays.
Et ça s'inscrit dans un mouvement plus large, non?
Tout à fait. Ça s'inscrit dans la dynamique lancée par le président Patrice Talon dès 2017 et puis encouragée par les restitutions faites par la France récemment. Ça a peut-être donné un coup de pouce.
Est-ce que ça peut inspirer d'autres pays, d'autres musées?
On peut l'espérer. C'est peut-être un tournant où ces demandes de justice historique deviennent plus fortes, plus entendues. Ça met la pression sur les institutions occidentales, bien sûr. Le chemin est encore très très long. Il reste des milliers, des dizaines de milliers d'objets hors d'Afrique.
Oui, c'est une goutte d'eau, mais symbolique.
Une goutte d'eau très symbolique. Comme l'a dit le ministre béninois de la Culture, c'est un retour aux sources. C'est rempli de fierté. Et ça ouvre peut-être un nouveau chapitre dans les relations culturelles entre l'Afrique et l'Occident.
Quel parcours, effectivement. De l'engagement à Cannes, aux complexités politiques et sécuritaires, au Mali, Libéria, Libye, jusqu'à cette quête de souveraineté, que ce soit par l'innovation technique ou la réappropriation culturelle. Si on essaie de faire le lien entre tout ça, qu'est-ce qui ressort finalement?
Plusieurs choses, je crois. D'abord, une forme de résilience, face à l'adversité, qu'elle soit sécuritaire, politique ou même historique, comme avec le patrimoine. Ensuite, on voit bien l'extrême complexité de la construction des États aujourd'hui. Les trajectoires sont très différentes d'un pays à l'autre. Il n'y a pas de modèle unique.
C'est clair.
Et enfin, on voit vraiment à quel point la culture, la sécurité et même l'innovation locale sont devenues centrales pour définir le présent, mais aussi l'avenir de beaucoup de nations africaines. Ce sont des processus en cours, faut pas tirer de conclusions trop vite.
Oui, tout est en mouvement. Et peut-être une dernière pensée pour la route. On a parlé de cette innovation malienne, ce pistolet fait maison, symbole de débrouillardise face à l'urgence.
Oui.
Et de l'autre côté, ce trésor ancestral béninois qui revient. Deux démarches si différentes. L'une technique, défensive, l'autre mémorielle, culturelle.
C'est vrai.
Mais est-ce qu'elle ne raconte pas au fond une histoire un peu similaire? Celle d'une quête d'affirmation, de reprise en main de son destin, de son identité, dans un monde qui est quand même de plus en plus complexe?
C'est une belle question.
Comment est-ce que les nations aujourd'hui construisent leurs forces et définissent leur place? Vaste sujet. Merci de nous avoir suivis.
Merci.